J'ai découvert dans ma recherche qu'il ne faut pas faire une généralité, qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Nous connaissons une personne, peut-être de notre famille, qui a abandonné, qui a rétrogradé, et les causes, les mobiles, les choix de certaines personnes de se retirer est loin d'être semblables les unes et les autres. Je voudrais simplement exposer ce matin le fruit d'une recherche biblique et de vous expliquer ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Alors je voudrais vous poser une question ce matin. À votre avis, qu'est-ce qu'un rétrograde? Qu'est-ce qu'une personne qui abandonne? Eh bien, comme chacun le sait peut-être, le verbe rétrograder signifie marcher vers l'arrière, ou retourner à un stade antérieur, ou perdre ce qu'on a acquis, regresser. Ça, vous trouvez ça dans n'importe quel dictionnaire que vous avez peut-être à la maison. En tout cas, le Robert me donne cette définition. Marcher en arrière, retourner à un stade antérieur, perdre ce qu'on a acquis, regresser. Dans le sens que nous avons ici, c'est une personne qui va en arrière, qui se retourne et qui abandonne ce qu'il a peut-être entendu, que ce soit un chrétien ou pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui entendent et qui se retirent, malheureusement, il faut parfois le constater, mais il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas du tout dans l'Évangile, qui entendent et qu'ils se retirent aussi parce qu'elles ne veulent pas entendre ce que la parole de Dieu a à dire. Dans Luc chapitre 15, vous avez deux paraboles. La parabole de la brebis égarée et de l'enfant prodigue. La Bible ne nous dit pas pourquoi la brebis s'est égarée, ni pourquoi le fils a demandé son héritage à son père. Et souvent, quand on lit ce genre de passage, on aimerait se poser toutes sortes de questions que la Bible ne forcément ne dit pas. Pourquoi la brebis s'est-elle séparée du troupeau? Moi, je me suis souvent posé la question, quand j'ai lu cette parabole, je me dis, mais pourquoi la brebis s'est-elle séparée du troupeau? Pourquoi le fils prodigue a-t-elle voulu s'éloigner de la maison familiale? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais on peut imaginer toutes sortes de choses par rapport à cela. Vous pouvez imaginer, par exemple, la brebis qui s'est perdue, elle s'est égarée du troupeau parce que à un moment donné, elle s'est étourdie. C'est-à-dire que elle a peut-être, à un moment donné, elle s'est mise dans ses rêve ou dans ses illusions, et à un moment donné, elle s'est égarée. Ma sœur a un frère qui est devenu grand-père depuis quelque temps, et il a raconté cette histoire à mon épouse, qu'elle m'a raconté, donc je me permets de la raconter tout simplement. Ils sont allés à Marbourg, il y a quelques jours, n'est-ce pas, il y a deux jours, avec sa fille. Et sa fille a deux enfants, un en deux, des autistes, les deux. Et la fille, Rebecca, elle a dit, ah, t'inquiète pas, il n'y a qu'une seule sortie de secours. Il n'y a qu'une seule sortie, elle est là, donc il ne va pas sortir l'enfant du McDo. Mais l'enfant étant plus malin que la maman, a trouvé une sortie de secours. La maman, loin d'imaginer un instant qu'il y avait une sortie de secours dans un McDo, a dit non, il n'y a qu'une seule sortie, il va sortir de là, donc il peut se promener dans le McDo. À un moment donné, l'enfant perdu. Plus d'enfant dans le McDo, on cherche l'enfant dans tout le commerce, donc mon beau-frère est allé faire une annonce donc dans la grande surface. Cherchez s'il vous plaît notre petit enfant, il s'est perdu. 20 personnes, n'est-ce pas, se sont mobilisées pour retrouver cet enfant. En réalité, cet enfant, de nature un peu étourdie, sûrement, est retourné dans le McDo, et il est resté dans l'endroit où c'est qu'il était à un moment donné, en train de regarder le ciel et de chercher pourquoi il était là tout seul. Et l'enfant a été retrouvé dans le McDo. Mais en attendant, son étourdissement à un moment donné a fait que ça a fait la panique chez ma nièce par adoption, par mariage, mon beau-frère. Enfin, c'était la panique dans la grande surface. Mais on peut imaginer, n'est-ce pas, que cette brebis s'est égarée tout simplement par étourdissement. Et ça arrive parfois. Ou par rébellion. Elle s'est éloignée du troupeau parce qu'elle ne voulait plus rester avec les 99 autres. Elle s'est rebellée. Ou on peut dire, c'est le manque de vigilance de la part du berger. Le fils prodigue, on peut imaginer toutes sortes de choses. Ça n'allait pas trop bien dans la famille. Il y avait son frère, l'aîné. Il n'aimait pas du tout. Hein. Alors il se dit, mais je vais faire ma vie. Je vais aller ailleurs. Je vais voir ce qui se passe à l'extérieur du foyer. Et on peut imaginer, n'est-ce pas, toutes sortes de choses par rapport à ces deux paraboles. Mais je voudrais juste rappeler que quand la parole ne dit rien, c'est pas à nous de rajouter. On peut imaginer, c'est vrai, il faut le dire, on peut imaginer toutes sortes de choses. En attendant, quand on voit certaines situations se vivre au sein de l'Église, ceux qui abandonnent les Églises, il y a plusieurs catégories et c'est le fruit de la recherche que j'ai faite durant cet été et on va essayer de les analyser un par un durant cette petite série. Tout d'abord, j'ai trouvé dans la parole de Dieu ceux qui n'ont pas bien compris. Et vous allez le voir après par la suite, je vais expliquer pourquoi je donne cette première partie, ceux qui n'ont pas bien compris. Ceux qui écoutent l'appel du monde. Vous avez des personnes qui, malheureusement, écoutent l'Évangile, mais et qui écoutent aussi l'appel du monde. Vous avez aussi ceux qui redoutent le propre, et je donnerai l'explication. Ceux qui se tournent vers l'erreur. Ceux qui n'étaient pas des nôtres, nous dit la parole de Dieu. Ceux qui se détournent volontairement de l'Évangile, et ceux qui ont été blessés. J'en donnerai l'explication au fur et à mesure. Regardons tout d'abord le premier point, si vous voulez bien. Les gens qui n'ont pas bien compris, vous avez bien entendu le verbe. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Vous avez dans la Bible un exemple qui est flagrant. On pense souvent que les disciples étaient 12. Pas vrai. Il suffit de lire l'Évangile, les Évangiles dans son ensemble, et vous vous apercevez qu'il n'y avait pas que 12 disciples. Jésus était suivi par un bon nombre de personnes. Évangile de Jean, chapitre 6, les versets 60 à 70. Je voudrais vous lire ce passage qui montre bien que Jésus n'était pas que 12, 13, comme on le dit souvent, mais ils étaient plusieurs personnes à suivre Jésus. Plusieurs de ses disciples. Je lis, Évangile de Jean, chapitre 6, à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Il parlait simplement du pain de vie. Si vous remettez dans son contexte le texte, vous lui relisez le chapitre 6, donc dans sa totalité, Jésus simplement parlait du pain de vie. Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à son sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter, où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui croient, qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous le dis, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous allez me dire, c'est quand même étonnant. Le pain de vie était à côté de eux, il venait de leur expliquer qu'il était le pain de vie, mais alors, le refus total, hein, ils n'en ont rien à faire du discours de Jésus. Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ?» Vous connaissez la suite, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors c'est une magnifique confession de la part de Pierre, mais tous n'étaient pas prêts à faire cette confession. Et je pense que c'est important de le constater, tous n'étaient pas prêts à faire cette confession. Et dans nos églises, malheureusement, tous ne sont pas prêts à faire la confession de Jésus-Christ. Nous avons besoin de comprendre et de ne pas rester dans l'ignorance quand le salut passe à côté de nous. Quand l'évangile est clairement expliqué, quand on dit clairement pourquoi Jésus est venu, eh bien, en tant que personne, nous devons tout simplement comprendre ce que la parole de Dieu a à nous dire au fond de notre cœur. Vous dites souvent, je prie pour mon pasteur. Je prie aussi pour l'exhortation qu'il va apporter. Et j'espère que ce matin, vous allez tous ressortir et que la semence va prendre graine en vous. Dans le sens de l'enseignement. Mais je prends conscience aussi que le malin vient aussi et peut supprimer la semence que Dieu a mis en vous. Parce que nous sommes des personnes oublieuses, malheureusement. Et c'est la parabole du semeur qui dit que bien souvent on a entendu, mais on a laissé le diable venir prendre la graine que le Seigneur a mis dans notre cœur. Ne pas comprendre, c'est laisser la place au diable. Pardonnez-moi de cette expression, mais c'est la réalité. Nous devons avoir la compréhension de la parole de Dieu. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, eh bien nous laissons la place tout simplement à ce que le diable peut faire, donc venir prendre la semence. C'est notre responsabilité. Je vous ai fait il y a quelque temps une série sur les racines. C'est important d'avoir des racines dans notre société. Je n'ai jamais vu autant d'exemples dans la parole de Dieu sur l'esprit du jardinier. Et le Seigneur explique clairement cette importance qu'une semence doit germer dans notre vie. La parole, elle est lumière divine, elle doit luire dans les ténèbres. Et s'il y a des ténèbres, nous devons tout faire pour qu'il y ait de la lumière. La Bible nous dit que Jésus est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Mais quand on est dans l'Évangile, quand une personne est dans l'Évangile, l'Évangile ne doit pas rester ténèbre dans nos vies. La parole ne doit pas rester ténèbre, elle doit pénétrer au plus profond de nous. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Quand la Bible parle de recevoir, le verbe « recevoir » dans la Bible. Je suis allé chercher un petit peu dans mes lexiques que j'ai au premier étage. Savez-vous que « recevoir » dans la version second traduit par « accueillir », par « accepter »,« prendre »,« saisir »,« arrêter »,« comprendre ». Le mot « recevoir » dans la Bible a toute cette idée
Selon certains cas, c'est on accueille, on accepte, on prend, on saisit, on s'arrête, on comprend ce que la parole de Dieu a à nous dire. Et je pense que c'est, ça nous aide, n'est-ce pas, à notre vie, dans notre marche, à nous éclairer, à nous donner de la plénitude spirituelle, à conserver une morale spirituelle dans un monde littéralement de ténèbres. Je suis convaincu que au plus vous lirez la Bible, au plus votre esprit sera préparé à ce que ce monde va aller de plus en plus dans les ténèbres. Parce que c'est une évidence. Quand je regarde l'actualité, le monde va de plus en plus sans Dieu. Et il est sans Dieu. La Bible le dit clairement. Il ne peut pas en être plus que ce que nous vivons. Nous voyons que le monde est dans les ténèbres et que nous avons besoin de lumière. Et cette lumière vient dans la compréhension, et dans l'acceptation de la parole de Dieu. Tout le monde n'accepte pas. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre. Et nous le voyons. J'ai eu l'occasion de témoigner à ma famille plusieurs fois. Vous avez peut-être eu l'occasion de témoigner. Tout le monde ne il n'y a pas tout le monde qui accepte Jésus. Nos églises seraient pleines. On avait déjà fait 4 églises depuis 21 ans. Accueillir la Bible, c'est se laisser vraiment prendre par elle. Accueillir la Bible, c'est se laisser enseigner par elle. C'est la pratiquer. Et beaucoup de gens ne veulent pas la pratiquer, ne veulent pas l'apprendre. Beaucoup de gens ne veulent pas l'accueillir, la parole de Dieu. Il y a quelques années, avec mon épouse, on est allé voir de la famille dans le sud de l'Italie. C'est une très belle région. La Calabre, c'est une très très belle région. Et en allant dans la Calabre, en Calabre, donc c'est dans la Bob, hein, quand vous allez, la Calabre, c'est vraiment dans l'extrême sud. On est presque dans la Sicile. Quand vous êtes à la Calabre, vous êtes à deux doigts de la Sicile. Mais dans cette région où c'est que nous sommes allés, à Bari, voir un missionnaire qui a travaillé pendant quelques années ici, c'est la famille Durand. Elle est venue pendant quelques années, au tout début ici, dans cette église, et elle a œuvré, le Seigneur les a appelés après, ailleurs, mais pendant quelques années, ils étaient ici, et après, juste avant leur retraite, ils sont partis dans la région de Bari pour aller évangéliser les Italiens de cette région. Et au cours de notre voyage, nous sommes passés les voir, ces missionnaires, à Bari. Et au cours donc, de notre entretien avec eux, nous sommes restés là-bas, je crois, 2 ou 3 jours, si j'ai bien souvenir, on a demandé, alors les Italiens, est-ce qu'ils acceptent Jésus? Est-ce que les gens de la région de Bari acceptent Jésus? Et il m'a raconté, M. Durand, qu'il connaissait une personne haut placée dans la région de Paris qui avait entendu parler de Jésus et qui savait ce qu'il voulait, qu'il devait faire pour accepter Jésus. Il était au courant de toute cette affaire, mais il ne voulait pas lâcher sa vie présente. Quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais il a reçu Jésus sur un plateau d'argent et il a refusé de l'accepter. Monsieur Durand a dit oui. Il ne voulait pas lâcher sa vie présente. N'est-ce pas le cas de l'homme riche qui vient voir Jésus? L'évangile lui a été présenté sur un plateau d'argent. Il a refusé Jésus. La Bible nous dit qu'il a entendu et il a refusé. Je pense qu'il a bien compris ce qu'il devait faire. Le Seigneur l'a bien éclairé, il a été direct avec lui. On ne peut pas dire qu'il n'a pas été direct. Mais la réponse de Jésus ne lui a pas suffi. Il voulait plus. Jésus, tu me demandes ça, mais c'est pas ce que j'attendais de ton message. J'aurais aimé quelque chose de différent. Dis-moi de garder ma fortune. Ouais, mais c'est ton problème, la fortune. L'argent, c'est ton problème. L'argent t'éloigne de Dieu. Et souvent, on oublie ça. Vous savez, les gens qui s'éloignent de Dieu, c'est parce qu'elles ont un péché à abandonner. Et tant qu'elles n'abandonnent pas, elles ne peuvent pas venir à Jésus. C'est impossible de venir à Jésus. Parce que le péché a pris le dessus dans leur vie. Oui, il y a des gens qui se bouchent les oreilles. Quand Étienne a prêché, regardez Actes chapitre 7, verset 57. Je n'ai pas le temps de prendre ce texte, mais je vous laisse le lire tranquillement ou de réécouter la prédication par la suite. Les Juifs se sont bouchés les oreilles à l'entente de la prédication d'Étienne. Vous connaissez la suite, il a été lapidé. La Bible nous dit que les Juifs ont refusé d'écouter longtemps la prédication de l'apôtre Paul. Actes chapitre 22. Il y a des gens qui refusent la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'acceptent pas la parole de Dieu. Et si on n'accepte pas la parole de Dieu, eh bien on retourne dans le monde, hein. Les personnes qui viennent dans l'église et qui ne veulent pas comprendre, eh bien, automatiquement, elles retournent dans le monde, donc elles retournent dans le péché, et c'est ce qui se passe bien souvent, malheureusement, elles ne veulent pas comprendre ce que la parole de Dieu dit, parce qu'on pense qu'en venant à Jésus, on va tout perdre. C'est ce que je pensais au début de ma conversion. Merci Seigneur. Jésus a été patient avec moi. Il m'a dit, mais t'as rien à perdre, j'ai tout à te donner. Et quand j'ai fait la liste de toutes les choses que le Seigneur m'a données, je dis, waouh, mais j'ai rien perdu en abandonnant le monde. Hein. J'ai rien perdu en abandonnant le monde. Hein. Voici ce que Dieu dit à son peuple. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit. Vous connaissez ce passage? Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi, j'oublierai aussi tes enfants. C'est des paroles dures, mais cette nation avait besoin d'entendre ce genre de paroles dures. Et notre monde aujourd'hui a besoin d'entendre des paroles aussi dures que ça. Le manque de connaissance, le rejet de connaissance de la parole de Dieu. Jésus le dit, c'est votre responsabilité. Vous êtes responsable. Si vous n'avez pas la connaissance, si vous oubliez la loi de l'Éternel, c'est votre responsabilité. Et c'est de notre responsabilité. L'homme, je dirais, est responsable devant Dieu. Alors on pourrait avoir un débat cet après-midi, si vous voulez, sur le libre arbitre. Mais moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, quand on va se présenter devant le Seigneur, on ne pourra pas dire « c'est la faute de ma femme, hein. C'est la faute de mes enfants, hein. Si je ne suis pas venu à l'église, hein, c'est de leur faute, hein. Ou c'est la faute de telle ou telle personne, hein. J'ai été influencé, ouais. Moi, je veux bien être influencé de temps en temps pour un bon petit repas. Je suis souvent influencé par un bon petit repas. Mais sur la parole de Dieu, croyez-moi, que si un jour j'ai pris l'initiative d'aller à l'école biblique, c'est parce que je savais très bien qu'il y avait besoin de mettre dans ma cervelle certaines compréhensions. Et je loue le Seigneur d'avoir pris quelques années, d'avoir abandonné le monde pendant quelques instants pour me mettre à étudier la parole de Dieu. Parce que j'en suis très reconnaissant aujourd'hui de cette connaissance de la parole de Dieu. Je n'ai pas tout expliqué. Je n'ai pas toute une grande connaissance. Il y a encore des choses avec quoi je lutte. Je voudrais quand même vous le dire. Pensez que j'ai la réponse à tout, alors là, vous vous mettez le doigt dans les yeux. Je n'ai pas réponse à tout, je ne suis pas un dictionnaire ambulant. Mais quand le Seigneur me parle, je lui dis tout simplement, Seigneur, ça va. J'ai compris la leçon. C'est ok, it's ok, comme disent les Américains. La leçon est comprise, Seigneur. Je vais mettre en pratique ce que tu m'as dit. Oui, le monde refuse la connaissance, la compréhension. Mais en même temps, notre responsabilité, c'est de faire attention. Jésus est prêt à vous expliquer. Quand vous manquez de compréhension, Jésus est prêt à vous expliquer. J'ai toujours apprécié l'histoire des deux disciples d'Emmaüs. Vous savez, quand on lit cette histoire, quand on essaye de l'analyser tranquillement, ils étaient déçus, tristes et découragés. Mais ça nous arrive régulièrement d'être déçus, tristes et découragés. Et des fois, j'ai envie de dire, Seigneur, écoute, dans ma méditation, s'il te plaît, enlève ma déception, enlève ma tristesse, encourage-moi aujourd'hui au travers de la méditation de ta parole. Et le Seigneur prit le temps d'aller voir ses deux disciples pour enlever leur déception, pour enlever leur tristesse et pour enlever leur découragement. Est-ce que vous pensez que ce qu'il a fait pour les deux disciples d'Emmaüs, il ne pourrait pas, le chemin d'Emmaüs, il ne pourrait pas le faire pour nous aujourd'hui? Moi, il m'arrive des fois d'être dans la déception, dans la tristesse, dans le découragement, et bien après avoir lu la parole de Dieu, j'ai l'impression d'avoir une lumière qui est passée devant moi et qui m'a éclairé à un moment donné. Jésus est venu me donner l'explication divine que j'avais besoin d'entendre. Et croyez-moi, quand le Seigneur parle, il est clair, hein? J'ai pas besoin de prendre les dictionnaires dans ma bibliothèque pour dire au Seigneur, tu veux que je vive l'amour? Ben écoute, voilà les explications dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 13. Alors, Seigneur, ma parole est à mémoire, 1 Corinthiens chapitre 13. Et oui, ben, t'en avais peut-être besoin de 1 Corinthiens chapitre 13. Voyez-vous, il y a des fois, le Seigneur nous montre clairement la parole de Dieu. Et bien souvent, c'est nous qui ne voulons pas la comprendre. Et beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, abandonnent parce qu'elles ne veulent pas se laisser enseigner par la parole de Dieu. Alors oui, c'est vrai, il y a des gens qui ne comprennent pas et qui partent, qui se retirent, c'est vrai. C'est un constat, nous le constatons bien souvent, mais en même temps notre responsabilité, c'est de bien expliquer la parole de Dieu. Quand nous sommes clairs, quand nous disons les choses clairement, quand nous disons les choses claires comme le Seigneur, eh bien je pense que les personnes qui sont en face doivent entendre ce genre de choses. C'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de l'Église locale. La Bible aujourd'hui n'est plus mise en avant. Je voudrais vous le dire, je voudrais vous le rappeler. La Bible aujourd'hui dans les milieux évangéliques n'est plus mise en avant. On aime beaucoup d'autres choses, mais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui est négligée par le peuple. Et cela la détruit. Parce que tout simplement, on ne veut plus recevoir ce que la parole de Dieu a à nous dire. Nous devons remettre la Bible au centre de nos vies, de nos églises. Nous devons remettre la Bible au centre. Si la Bible elle est mise au centre, les personnes qui viendront la comprendront. Et s'ils ne veulent pas comprendre, c'est leur responsabilité. S'ils se retirent, c'est leur responsabilité. De toute manière, la seule chose qu'on pourra leur dire, t'as pas voulu comprendre, Mais demain, quand tu te présenteras devant Dieu, ça sera trop tard. Et nous devons leur rappeler gentiment, dans l'amour fraternel, nous devons leur rappeler. T'as pas voulu comprendre, c'est ton problème. Mais demain, quand tu te présenteras devant Dieu, tu es responsable. Est-ce que cette nation est responsable? Oui, elle est responsable. La France est responsable. Quand elle se présentera demain devant Dieu, elle ne pourra pas dire ne pas avoir entendu la parole de Dieu. Est-ce que le monde est responsable? Oui, le monde est responsable. Parce que demain, quand il se présentera devant Dieu, il ne pourra pas dire « Non, il n'y a personne qui m'a dit. » Le monde a entendu. Et nous devons être des personnes qui redisons, qui expliquons tranquillement les choses aux personnes qui nous entourent. Je voudrais terminer par un passage qui se trouve dans Hébreux. Chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. N'abandonnons donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis. Encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen.
Amen.
Alors que nous puissions être encouragés avec ces quelques passages de la parole de Dieu. Je ne sais pas, j'ai pas envie de recevoir un merci. Hein. Non, loin de moi l'idée de recevoir un merci, mais que ce message et ceux qui vont précéder puissent nous encourager à comprendre réellement certaines situations qui peuvent arriver parfois au sein de l'Église, qui peuvent nous décevoir, nous attrister, c'est vrai, mais d'écouter la voix du Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Amen.
Amen.